Notre-Dame-des-Landes. Renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leurs bandes de Notre-Dame-des-Landes. Face à vous, de dangereux terroristes, armés de bon sens, de palettes et de vis, qui jettent des poireaux à la figure. Pauvres flics, tout proche de la bavure. Ici, tout le monde est solidaire. La ZAD tient bon et ne lâchera pas l'affaire. Ici, tout le monde est solidaire pour construire un monde sans leur bande d'actionnaires. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes.
On a 20 ans, on a l'expérience des parents. On se fout du tiers comme du quart. On prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie. Cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean. Et pour le reste, on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule. Quand elle est batte, ça va tout. Balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans. On a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent et puis on sort. On va griller une cigarette. L'amour, ça se prend et puis ça se jette. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois. Quand on est seul, c'est ce qu'on appelle la voix du dedans. Ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Pour tout bagage, on a 20 ans. On a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien. C'est jamais tout, c'est jamais rien. Ce rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace. Quand on est seul, qu'on ait été chouette ou tordu, avec les ans tout est foutu, alors on maquille le problème, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime, et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20 ans.
Ça sert, passer tout ce temps. Cet arpège est un piège, on en sort comment? On réfléchit, on assiège, et plus seul qu'avant, et plus seul qu'avant.
J'ai l'histoire. I didn't want it. You wanted it. Now you've got it. You don't like it. You can't get out of it now. Pork and beans, diapers to wash, too poor for the movies, too tired to love, there's nothing we can do. Stenographers on the subway, the grocery boy's got a big one. We can't do anything about it. You're only young once. You've got to die when your time comes. That's how it is. Nobody can change it. Big cars whistle, freight trains moan in the night. We can't get away with it. That's the way life is. Everybody's in the same fix. It will never be any different.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend en ce mois de septembre avec Jean-Mathias qui va aujourd'hui nous présenter un livre d'un certain Kenneth Rex Roth. Voilà. Donc, vous venez d'entendre un morceau qui s'intitulait Married Blues 1960. Alors, donc, ce fameux Rex Roth a écrit un livre qui s'intitule Le communalisme. Sous-titré « Les communautés affinitaires et dissidentes des origines jusqu'au XXe siècle ». C'est édité chez l'Insomniac. Je ne sais pas si c'est un livre d'actualité ou...
Bah évidemment, mais il est par contre...
Pas du tout.
Il a été édité il y a quelques années déjà.
D'accord, en 2019, donc on est presque dans la... Ouais. On est presque dans, dans l'actualité. Et donc, c'est un livre qui va s'intéresser au fait que tout un tas de communautés ont pu se former au cours des siècles, souvent sur des communautés un peu utopistes qui rêvaient de rompre avec le partage inégal des richesses et les injustices de la société plus large qui les englobait, pour tenter de mieux vivre entre gens éclairés peut-être, mais éclairés par quoi ? Est-ce que c'est éclairé par la raison ? Est-ce que c'est éclairé par Bakounine ? Est-ce que c'est éclairé par la vérité divine ? Justement, au Moyen-Âge, il est possible que Dieu ait joué plus un rôle là-dedans et que peut-être, je ne sais pas, Jean-Mathias nous le dira, peut-être l'influence du clergé monastique a pu jouer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, c'est une tentation, une tentative qui existe depuis très très longtemps dans tout un tas de milieux utopistes et politiquement qu'on pourrait penser proches de l'anarchisme, d'un certain anarchisme. Même si j'imagine qu'il y a eu des formes extrêmement différentes d'organisation au cours des âges, en fonction des différents lieux où ça se produisait. Donc Jean-Mathias, voilà, sur Kenneth Rescrot, le communalisme.
Le communalisme, oui. Peut-être deux mots d'abord sur l'auteur, Kenneth Rescrot, qui est donc une figure en fait de l'anarchisme américain de l'entre-deux-guerres, qui est une période un petit peu... qui n'est pas la plus connue, hein, en fait, de l'anarchisme américain, dans l'histoire de l'anarchisme en tout cas. Kenneth Rexroth, ses dates, c'est 1905-1982, pour situer un peu le bonhomme. Et donc, en gros, l'essentiel de ses expériences politiques, esthétiques, intellectuelles, personnelles, c'est l'entre-deux-guerres, les années 20 d'abord. Et puis, en fait, il se forge un petit peu ses idées à ce moment-là. C'est une personnalité qui est assez malgré ce que tu peux penser, Michel, des gens dont le prénom est Kenneth, il est à bien des égards il est assez attachant et assez d'une personnalité très riche, quoi, parce que c'est un type qui naît dans l'Indiana. Il va devenir orphelin assez jeune. Il perd sa mère d'abord, de qui il était très très proche au cours de ses 10 premières années. Puis il va perdre son père après au moment de la grippe espagnole, juste un petit peu après la grippe espagnole, donc en 1919, après la Première Guerre mondiale. Et après, il va grandir un peu à marche forcée assez vite. Il va s'installer à Chicago. Il passe par Paris pour rencontrer un peu les avant-gardes artistique parisienne dans les années 20. Il va être assez déçu par il rencontre Fernand Léger, il rencontre les surréalistes. Il est un petit peu déçu. Il est très sensible très tôt à la littérature, la poésie, dès l'enfance et puis après au moment de son adolescence. Donc il est un peu passionné par tous ces mouvements d'avant-garde européens surtout. Il rentre aux États-Unis et là en fait il va aller à Chicago. Pendant de nombreuses années, et c'est surtout là en fait qu'il va se former, et puis que sa personnalité et ses options politiques, esthétiques un peu vont se former. Il traîne beaucoup dans les milieux de littéraires, notamment du côté de la poésie. Il est amateur de jazz beaucoup, et puis aussi il traîne dans tous les milieux un petit peu un peu suburbain, on va dire, du côté un peu de la petite criminalité, de la prostitution. Il se forme un petit peu dans ces milieux-là. Il va militer politiquement aussi, c'est-à-dire qu'en fait il est sensibilité plutôt anarchiste. Après il a une personnalité artiste, on va dire, c'est-à-dire que c'est un amateur de littérature beaucoup européenne, de poésie, alors Walt Whitman évidemment, de la poésie américaine, de poésie japonaise aussi. Donc c'est un autodidacte très très érudit, mais qui en cumulé il est allé 5 ans à l'école, dans sa vie. Donc toute sa culture personnelle, littéraire, esthétique et politique, en fait c'est sur le tas, c'est par des expériences assez concrètes. Il va croiser en fait Emma Goldman, il va croiser des gens comme ça qu'il va fréquenter. Il va militer chez les anarcho-syndicalistes américains, le fameux syndicat YWW, là, International Workers of the World.
Alors c'est industrial.
Industrial.
Oui, parce que sinon ça fait deux fois international, c'est un peu bizarre.
Ah oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Donc il y milite pendant les années 30, notamment. Il est pacifiste au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, objecteur de conscience. Il va bosser dans un hôpital psychiatrique. Il montre une organisation pacifiste. Il s'occupe en fait des résidents japonais qui se retrouvent coincés sur le territoire américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce qui est pas forcément un des engagements les plus confortables, j'imagine, dans aux États-Unis de cette époque-là. Et puis ensuite, il va s'installer à San Francisco. à San Francisco, et là, il va créer un certain nombre de groupes libertaires, il continue à écrire de la poésie, il continue à animer différentes conférences, et en fait, il va assister, si tu veux, à l'éclosion du mouvement Beat, hein, donc avec des gens comme Kerouac, avec des gens comme Ginsberg notamment. Il est l'organisateur en fait de la première séance de lecture où Ginsberg justement va se révéler en fait au public avec des gens comme Corso, Burroughs aussi. Donc ça c'est en 55, hein. Mais lui il est déjà en quelque sorte il a déjà fait l'essentiel de sa vie en fait de sa culture politique, poétique, littéraire à ce moment-là et il est parfois classé un peu comme un des écrivains, si tu veux, une des éminences grises en fait du mouvement Beat, et puis de la Renaissance de San Francisco jusqu'au début des années 60, hein. Puisqu'en fait, il a eu alors des expériences communautaires assez nombreuses dans sa vie, sur des milieux libres ou diverses formes d'organisation communautaire. Et évidemment, quand San Francisco, au début des années 60 et puis pendant toute la décennie des années 60, va se mettre à fourmiller de toutes ces expérimentations-là, bah, c'est un petit peu celui qu'on consulte, un peu celui qui a l'expérience de la chose. Cette question du ce qu'il appelle lui le communalisme, ce qui est un terme un peu pas si fréquent que ça, parce que c'est pas municipalisme de Murray Bookchin par exemple, hein, dont on avait déjà parlé ici à cette antenne, même s'il était aussi proche de Murray Bookchin, mais il est à la fois très politique en fait, voilà, très égalitariste, très communisant, on va dire, hein, dans ses aspirations, et en même temps c'est quelqu'un qui s'intéresse et qui est passionné, alors là pendant toute sa vie, hein, pas justement par l'histoire en fait de ce qu'il appelle ces mouvements communalistes là, ce qui est une espèce de communisme utopique en fait. Il essaie de suivre ce fil là il a donné des dizaines et dizaines de conférences là-dessus en fait tout au long de sa vie, hein. Mais c'est une vision très panoramique, c'est-à-dire qu'en fait le bouquin, je vais en parler, hein, mais en fait il démarre au néolithique, si tu veux. Il démarre au néolithique et il s'arrête effectivement à la fin des années 60, c'est-à-dire avec les premières communautés hippies, pour lesquelles en fait il a pas tant de sympathie que ça, hein, parce que il a un peu la perspective historique du truc et il voit assez rapidement un certain nombre de travers, si tu veux, liés à l'apparition de ces communautés là au moment des 60s. Il embraye pas du tout dans le mouvement des drogues, c'est pas son truc à lui, il aurait pu, mais c'est pas son affaire. Lui est plutôt poésie érotique, on va dire, hein. Plutôt contemplatif, plutôt de ce côté-là, et en fait il se tient un peu à distance, hein, de cet aspect du mouvement, notamment au moment de l'apparition du mouvement Beat. Et puis après des communautés hippies, c'est pareil. Bon, mais enfin, il a 65 ans, hein, donc si tu veux, c'est quand il y a les jeunes de 20-25 effectivement qui viennent le voir ou qui voient effectivement former des mouvements communautaires comme ça. Lui, là, sa vie est déjà assez largement derrière lui. Et donc en fait, ce bouquin-là, le communalisme, c'est une espèce de somme, hein, de tout un tas d'études et de conférences qu'il a fait tout au long de sa vie. Il a enseigné à l'université de Santa Barbara aussi, mais pas là-dessus. Enfin, quelques cours d'histoire, mais surtout des cours de poésie. Et en fait, c'est la somme ou l'espèce de synthèse de toutes les recherches qu'il a pu faire. C'est pas un historien de métier non plus, hein, c'est pas un historien de métier, mais par contre, comme souvent, bah, chez des personnalités autodidactes comme ça, il est assez impressionnant d'érudition pour le coup. Alors ça donne un bouquin qui est vraiment foisonnant, que moi j'ai trouvé super agréable à lire, parce que c'est à la fois très précis, ça part dans plein de sens différents. Il y a une foule d'expérimentations communautaires du coup qui sont rapportées, je dis, depuis le néolithique, en passant par une bonne partie des hérésies médiévales. Après il y a toute la partie consacrée aux hérésies européennes, notamment du côté de la Bohème, donc avec l'apparition de la Réforme à la Renaissance. Et puis après, il s'intéresse aussi beaucoup aux radicaux anglais, aux radicaux américains évidemment, à toutes les expérimentations, notamment au 19e. Alors le 19e, là, il y a effectivement des expérimentations de tous les côtés. Donc t'en as aux États-Unis. Il parle évidemment de Fourier, de Cabet, donc des fondateurs du socialisme utopique, hein, et de ce côté-là. Et puis il finit effectivement sur les premiers mouvements communautaires hippies, le bouquin de 74. Donc c'est là-dessus qui conclut. Mais c'est un bouquin qui est hyper agréable à lire. C'est un beau bouquin déjà, c'est un beau bouquin illustré. Voilà, j'insiste là-dessus parce que c'est pas si fréquent. Alors je sais pas combien ça leur a coûté à l'édition là à l'Insomniac, mais en fait l'édition c'est une belle édition, une belle iconographie. Voilà, aussi bien sur les mouvements médiévaux que sur la Renaissance après. Donc c'est assez chouette. Alors parfois c'est du coup comme c'est pas un travail d'historien, si tu veux, des fois t'aimerais bien que ce soit un peu plus synthétique ou qu'il tire des conclusions, etc. Ce qui fait pas tant que ça en fait. Hein, il tire pas de leçons, il fait pas une théorie, c'est pas un penseur systématique. Hein. Il est plus dans une espèce de galerie, de fresques un petit peu, qui lui permet de présenter toutes ces expérimentations là au cours du temps, et donc sur une durée super longue quoi. Et alors un des attraits je trouve du livre, c'est que du coup ça te replonge, ou ça te plonge tout simplement, parce que pour la plupart des cas c'est des trucs dont on entend pas beaucoup parler, voire pas du tout en fait, mais ça te plonge dans des expérimentations au Moyen-Âge. Alors t'as évoqué le cas du monachisme, le mouvement des ordres monastiques, évidemment. Donc évidemment il en parle, c'est pas qu'il s'intéresse à des communautés influencées par, il te parle des communautés, notamment des bénédictines, qui lient comme justement des expérimentations, et il replace ça effectivement dans le contexte de l'époque. Il te reparle des débats notamment de ces communautés monastiques avec la papauté notamment, et il te montre comment ça passe pas du tout comme une lettre à la poste, hein, et que il y a effectivement un fil très important du livre qui est consacré en fait à la manière dont ces communautés ont repris les espèces de vertus apostoliques dans le christianisme avec l'apologie de la pauvreté, et avec une dimension aussi, ça c'est là c'est vraiment vraiment fondamental, le partage des biens. Souvent, mais pas toujours, et certainement pas des ordres monastiques, mais le partage aussi des hommes et des femmes. Hein, il y a une dimension qui est très présente aussi dans la plupart des expériences dont il parle. Et puis, il y a une dimension aussi qui est très fréquente, c'est la dimension millénariste, hein, qui est évidemment liée au fait que la fin du monde étant pour demain ou après-demain, et bien effectivement, la règle de la plupart de ces communautés-là, en tout cas d'une bonne part de ces communautés, au moins jusqu'à la fin du 19e, hein, jusqu'aux premières communautés athées dont il parle aussi, Robert Owen, Fourier, Cabet. L'idée, c'est que le monde étant appelé à se terminer bientôt, en fait, il faut que chacun essaye de se comporter comme si justement, il devait se mettre en règle en fait avec les autres, avec ses proches, et vivre chaque jour, comme si c'était le dernier, on va dire. Et donc là, en l'occurrence, ça prend toute sa dimension. Donc c'est assez passionnant en fait comme lecture, même si des fois on aimerait que il fasse un peu de synthèse ou qu'il tire un petit peu des moralités de telle ou telle présentation. C'est pas trop son truc, hein, c'est pas ce qui l'intéresse. Et donc, il nous emmène dans une espèce de voyage comme ça, qui part même du néolithique. Alors bon, évidemment, sur le néolithique, autant vous dire qu'il
manque un peu de documents, sans doute.
Il manque un peu de documents. Il fait pas comme s'il les avait, hein, voilà. Et le premier chapitre sérieux, c'est sur les Esséniens, en fait. Hein, donc avant l'apparition du christianisme. Et après, il nous fait visiter, l'apparition des premiers ordres monastiques, cette espèce de tentative de retour qu'on trouve effectivement dans l'histoire du christianisme, un retour aux vertus primitives du christianisme, donc pauvreté, partage, dévouement et vie communautaire, mise en commun, effectivement. Donc une espèce de communisme utopique religieux, là, clairement, hein, ça c'est le cas. Et après, on passe effectivement, mais on va parler après dans la suite de l'émission sur faire quelques points sur les multiples hérésies communisantes, hein, qu'a pu connaître l'histoire du christianisme au Moyen-Âge, en passant par les mystiques rénans. Voilà, il va chercher des gens comme Maître Eckhart pour les Beguine, enfin tout un tas de mouvements qui sont pas forcément des plus connus. Et puis jusqu'effectivement aux expérimentations athées. Alors Robert Owen, par exemple, anglais, et puis expérimentateur de communauté aux États-Unis, Fourier et Cabet, j'en ai parlé. Et il termine sur les, sur, voilà, une de ces lignes, en fait, c'est cette tradition du christianisme qu'on appelle les anabaptistes, hein, qui sont, qui apparaissent effectivement à la fin du Moyen-Âge et qui sont encore actifs et bien actifs aux États-Unis aujourd'hui, après avoir connu, voilà, des boires diverses et variées, mais ça donne au final un livre qui est très agréable à lire et qui est, dans lequel on apprend plein de choses, quoi. Voilà. Alors, on va peut-être faire une première petite pause musicale avant de rentrer un peu dans le contenu, si ça vous va.
Once I arose from a small wooden chair, opened the window and started to stare. At roses that grow in a vertical way, because there is sunshine above them each day. I smiled at the roses and started to think of beauty that lay in this logical leap. If life was as simple as just growing flowers, think of the seconds and minutes and hours.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour la deuxième partie de son émission de rentrée. Et vous venez d'entendre un morceau composé par deux groupes qui s'étaient réunis succinctement pour un album, The Residents, un groupe américain assez connu, et Reynaldo and the Loaf, moins connu je pense, mais très très drôle, de groupes expérimentaux. Le morceau s'intitule, ou s'intitulait, ou comme vous voudrez, ou s'intitulera, puisque c'est de l'expérimentation, Horizontal Logic. Il est de 1983. Et donc Jean-Mathias va nous parler du néolithique et de ces fantastiques sociétés communalistes sur lesquelles nous n'avons absolument aucun document. Donc je l'attends de pied ferme avec un sourire narquois, étant donné que c'est lui qui a choisi le livre d'un certain Kenneth.
Rex
Rhodes, avec un nom incompréhensible. Mais c'est un beau livre, on lui accordera ça. Et donc c'est un livre consacré au communalisme et édité chez l'Insomniac.
2019.
Alors là, je le vois compulser frénétiquement son livre, sans doute pour chercher des références à ces fameuses communautés néolithiques.
Donc sur le néolithique, je vais aller vite, parce qu'il va vite aussi. Et en fait, plutôt partir il n'a pas beaucoup plus de documents d'ailleurs, mais en fait, il y a des témoignages qui sont plus nombreux, c'est sur la communauté des Esséniens. Donc les Esséniens, on est, voilà, il en est question un peu dans l'Ancien Testament. En fait, pour lui, c'est un point de départ qui est important et qui est intéressant, parce que d'après lui, on retrouve, en fait, il y a une espèce de socle, en tout cas de valeurs ou de traits communs, qu'on va retrouver après dans toutes les expériences qui décrit par la suite. Je cite, au départ, là, c'est page 40, il résume un peu. Donc il dit, voilà, donc c'est sur l'aspect millénariste, en fait, dont je parlais tout à l'heure, donc l'imminence de la fin du monde. Donc il formule ça comme ça. Il dit, l'attente immédiate de l'apocalypse rend vain et vide de sens la possession de richesses et le statut social, ainsi que le pouvoir qui en procède. La communauté chiliastique ou millénariste pratique une stricte mise en commun des biens, dans le partage d'une pauvreté volontaire, le travail est réduit à sa plus simple expression, le travail agricole de la communauté villageoise primitive, et les artisanats qui lui sont liés, facilité par les techniques empruntées à la société dominante. Donc ça, c'est pour le travail, en précisant que le travail, les autres types de travaux sont la plupart du temps maudits. Et donc il résume en disant que voilà, que quels que soient leurs antécédents, les particularités religieuses des Esséniens demeurèrent les marques distinctives de presque toutes les sectes communautaires ultérieures. Et de fait, c'est vrai qu'on va retrouver ça. On va retrouver ça dans la plupart des cas qu'il étudie après. Alors il y a un point ensuite, il enchaîne évidemment sur ce que je mentionnais tout à l'heure là, c'est-à-dire l'apparition des premiers ordres monastiques. Et alors lui, l'interprétation, enfin, elle est pas particulièrement originale, mais cette naissance des premiers ordres monastiques, elle est en fait motivée par une espèce de réaction contre le fait que le christianisme devienne une religion d'État, hein, à partir de l'empereur Constantin, et du coup perde en fait sa dimension de contre-pouvoir ou de contestation du pouvoir qu'elle a eu pendant 4 siècles auparavant. Et donc le fait que le christianisme devienne une religion et une caution du pouvoir va pousser en fait tout un tas de personnes et de mouvements à se constituer dans une logique de retour aux sources, hein, pour le coup, de retour aux sources et de retour à justement ces valeurs primitives du christianisme et ensuite des valeurs apostoliques à proprement parler. Et donc il dit que voilà qu'il y a à ce moment-là de cette période tout un tas de communautés, y compris voilà de laïcs, hein, qui se constituent, alors laïcs chrétiennes, hein, on s'entend, hein, c'est pas des prêtres d'exercice, mais qui vont en fait se mettre en place à ce moment-là et notamment du côté des franciscains, hein, de la doctrine de saint François d'Assise. On a quelque chose comme ça, c'est-à-dire une espèce de mise en avant. Alors, la particularité des franciscains, c'est qu'effectivement, ce sont des moines mendiants, hein, ou effectivement avec des vœux de pauvreté qu'ils mettent en application, pour le coup, et qui vivent, du coup, avec une espèce d'organisation, pour le coup, extrêmement horizontale. Alors là, pour le coup, on peut pas parler de circulation ou de libre circulation des femmes ou des hommes, ou de mariage, ou de tension érotique latente, hein, c'est pas tellement le trip François d'Assise.
Ah, dans le roman de la Rose, on peut en prendre la page aussi, hein.
Ouais, il y en a, mais c'est pas revendiqué, on va dire, voilà. D'accord. Si tu veux. Hein. Et donc, c'est l'idée que la pauvreté est une vertu en soi, en quelque sorte, hein, et qu'évidemment, que toutes les formes d'enrichissement de pouvoir sont des formes de déviance par rapport au message du Christ,
avec tous les débats justement sur la pauvreté ou la richesse du Christ,
bien sûr
pauvreté matérielle, richesse spirituelle, etc. qui ont déchiré l'Église, je crois, à l'époque.
Oui notamment sous le pontificat de Jean XXII, il en parle effectivement, avec tout un débat effectivement sur la question du statut de la propriété, hein. Est-ce que la propriété doit effectivement être maudite comme le comprennent en tout cas, hein, ces partisans d'un retour aux sources du christianisme. Et puis le pape va plutôt pencher sur le fait que non, finalement, en fait, hein, la propriété finalement n'est pas maudite en elle-même. Et t'as tout, il mentionne là tout, bon, il va vite, hein, mais t'as tout un débat notamment sur les deniers donnés à Judas, en fait, hein, pour trahir Jésus, justement. Donc c'est à partir de cet épisode là effectivement que se noue la discussion à l'époque, hein, sur cette question du statut de la richesse et au contraire la valeur de la pauvreté. Et alors, parmi ce mouvement-là, en fait, il insiste, enfin, ces mouvements-là, donc il parle des franciscains un petit peu, il insiste aussi, parce que ça, c'est un peu son dada personnel, un de ses dadas personnels, sur le courant mystique, en fait, qui se développe dans le christianisme, et qui, alors bon, de manière très très schématique, en fait, hein, lui, c'est comme ça qu'il le lit, en tout cas, après, historiquement, je connais mal cette période-là, je sais pas si c'est justifié, mais il lit, en tout cas, l'apparition d'un courant mystique dans le christianisme, notamment en Allemagne, hein, en Rhénanie, autour de Maître Eckhart notamment, comme une espèce de réaction justement à, on va dire, voilà, l'embourgeoisement, tu vois, de l'Église catholique et de la papauté, et comme une espèce de mise à distance de toute la pensée scolastique, hein, donc héritée de Thomas d'Aquin, qui justement voilà organise le monde, organise un ordre des choses, un ordre des relations, un ordre social, et en fait comme une espèce de mise à distance de ça, avec un retour vers plutôt les sources grecques et aristotéliciennes, et l'idée d'une espèce de contemplation du coup un peu directe, en quelque sorte personnelle, hein, plus ou moins personnelle et plus ou moins directe, entre le croyant et Dieu. Et en fait cette mise en avant, en fait voilà, cette valorisation de l'expérience mystique comme rapport direct à Dieu, Et alors évidemment, ça va encourager la formation de communautés mystiques qui donc ben, mécaniquement ont tendance à mettre à distance la hiérarchie, si tu veux, de l'Église et le contrôle hiérarchique du pape et puis de toute la cascade pyramidale qui en découle. Et en fait, il voit ça lui effectivement comme un courant. Alors il y a des noms qu'on découvre quand on n'est pas spécialiste. Hein, Hildegard de Bühne, notamment.
De Bingen.
Voilà, la fameuse. Alors, donc, grande compositrice, hein, devant l'Éternel, de chant. Il y a le cas de Maître Eckhart. Et puis, dans ce sillage, il y a toutes les communautés qu'on a appelées les béguinages. Alors, c'est vrai, beaucoup dans l'Europe centrale et puis l'Europe du Nord. C'est pas vraiment des communautés monastiques, ça. Hein. On est sur une espèce de truc un peu hybride, avec les premiers habitats communautaires, et tout ça participe, si tu veux, de cette espèce de genèse d'une espèce de tradition communaliste, horizontale, un peu à l'écart, si tu veux,
C'est-à-dire qu'il y a deux choses là. Il y a une espèce de tradition horizontale plutôt mystique qui va se former un peu aux marges de l'Église, mais quand même encore dans l'institution. Et puis ensuite, il y a une espèce d'échappée en dehors de l'Église, c'est-à-dire
pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Pas tout de suite. Hein, là, les formes, le mysticisme rénan prospère dans les béguinages. Hein, il nous rappelle ça. Et autres communautés, ce qu'il appelle les communautés semi-monastiques, d'accord, de femmes pieuses qui sont associées dans la pauvreté, le travail, la prière, la méditation.
Mais elles ne sont pas des nonnes.
C'est pas officiellement des nonnes, voilà. On est à lisière de ça, hein. Mais par contre, effectivement, c'est une expérience qui est religieuse revendiquée, si tu veux. Hein. On est effectivement dans.
Sachant que quelqu'un comme Maître Eckhart, avant d'être réhabilité par Heidegger au XXe siècle, il faut quand même le rappeler, je crois, a été mis à l'index, ou du moins il a été.
Oui.
Il faisait partie des auteurs qui n'étaient pas forcément très très bien vus. Bah,
pour ces raisons-là.
Et en partie aussi parce que je crois que ça débouchait plus ou moins sur une théologie dite négative.
Oui,
c'est-à-dire sur le fait qu'on ne peut pas connaître spécifiquement les attributs divins. Et donc toute la théologie positive à la Saint Thomas, effectivement, qui va essayer de déterminer quelles sont les propriétés de Dieu, est remisée.
Tu ne peux rien attribuer ou démontrer à propos d'eux. Effectivement, Dieu n'est ni. Voilà. Donc tout s'abîme en quelque sorte dans cette espèce d'expérience contemplative un peu personnelle là-dedans. Donc évidemment, c'est pas très pratique pour tenir en main une église. Et puis voilà.
Et ça remonte à un gars qui s'appelle le pseudo de Nilan
Brigitte,
qui a écrit les noms de Dieu au 4e ou 5e siècle.
Mais voilà, avant effectivement Thomas d'Aquin, bien avant toute cette machinerie là. Alors parmi à côté des béguines, il y a aussi alors il y a des mouvements qui pour le coup sont border et qui sont pourchassés pour hérésie. Hein, il mentionne le cas des frères du Libre-Esprit notamment. Alors ce qui est marrant, c'est que frères du Libre-Esprit, donc là on est effectivement en plein Moyen-Âge, hein, cette affaire-là. Et c'est une expérience sur laquelle qui a fasciné quelqu'un comme certains situationnistes comme Van Hegem par exemple, hein, qui ont écrit là-dessus en fait sur ces expériences-là. Mais bien plus tard, hein, je crois que le bouquin de Van Hegem ça va être dans les années 80 ou un truc comme ça. Donc il y a toute il y a les martyrs, donc il y a ceux qui passent la toise et puis ceux qui se font cartonner par l'Inquisition, hein. Et puis après il parle de tout un Après, il parle de toute une tradition, alors qui pareil est en fait assez complexe. Il y a un appel à la révolte qui part en fait. Donc on est plutôt vers la Renaissance, qui part plutôt d'Angleterre, hein, à la suite des appels à un certain John Wycliffe notamment, qui est en fait à l'origine des premières révoltes paysannes anglaises. Et puis en fait, il y a les premiers mouvements de réforme en fait, hein, des réformateurs qui se mettent en place, notamment. Alors c'est de la pré-réforme, on est bien avant Luther là. C'est notamment le cas de Jean Hus. Jean Hus, qui est tchèque si je me trompe pas, et qui va en fait remettre en question pareil l'autorité de l'Église et commencer à structurer en fait des communautés. Alors après l'expérience anglaise là, à structurer des communautés sur la base effectivement de ces valeurs chrétiennes fondamentales et qui va lui leur donner une certaine, pour le coup, ampleur. Alors, une ampleur, on s'entend, hein, ça va être à l'échelle de petites villes, soit en Tchécoslovaquie, soit en Allemagne.
Les fameux hussites.
Voilà, les fameux hussites. Hein. Et là, pour le coup, ça commence un peu à renacler parce que ben, y a une dimension politique de fait, si tu veux, qui se met en place, même si les gars sont n'ont aucun programme politique, aucune expérience politique particulière, et sont dans la transe quasi quotidienne, si tu veux, avec des cérémonies multiples et variées. Mais par contre, ça déclenche des guerres parce que les princes autour voient et voilà. Et puis même en interne, si tu veux, faut s'imaginer ces trucs-là comme des espèces de communautés, si tu veux, qui se rencontrent, qui se forment, si tu veux, en dehors des villes, et puis qui, à un moment donné, voilà, décident d'aller s'installer là, boum, ils arrivent, si tu veux. Ils arrivent par noyau, comme ça, ils convertissent, ils évangélisent, ils prennent de la place, et puis après, à un moment donné, ils disent, maintenant, on est chez nous, on va faire comme ça, maintenant. Ouais. Voilà. Et du coup, les autorités des villes en place,
sont mécontents, d'autant que, comme ils sont tout le temps en transmystique, ils ne travaillent pas, ils font même pas les courses.
Ils font peu.
C'est une catastrophe.
Ils travaillent peu. Et t'as le cas, il raconte ça. Donc t'as toute une période de ce qu'on appelait les guerres hussites, hein, effectivement. Donc qui sont voilà des réactions de défense, d'autodéfense de cette communauté, justement autour de la ville de Tabor notamment. Donc il raconte ça un petit peu dans le détail aussi. Là on est au 15e siècle, hein, on est au 15e siècle, et ces guerres-là vont durer quand même pendant plusieurs années avant d'être vraiment réduites par des coalitions. Alors soit voilà sous le commandement de l'empereur, soit sous ceux de princes en fait locaux qui s'allient pour ça. Et en fait, le mouvement du coup commence à se structurer un petit peu. En fait, ça va déboucher notamment, si tu veux, sur la réforme avec Luther. Mais t'as ce qui s'appelle les articles de Prague, hein, qui sont prononcés en 1420, et donc qui résume alors le programme. Donc vous allez vous rendre compte, hein, de la dimension proto-politique, on va dire, de ces communautés-là.
Infra-politique.
Ou infra, ouais. Proto peut-être, parce qu'après, en fait, tu vois, ça c'est promis à une postérité quand même assez longue. Le programme minimal, nous dit Rex Roth, qui demeura non négociable tout au long des guerres hussites et le resta lorsque 15 ans plus tard, le conflit déboucha sur un accord entre belligérants. Alors article 1. Article de Prague, hein. Article 1, la parole de Dieu sera prêchée et proclamée librement dans tout le royaume de Bohême par les prêtres du Seigneur. C'est eux, hein, les prêtres du Seigneur, évidemment. Article 2, le sacrement de la très sainte Eucharistie sera librement administré sous les deux espèces, le pain, le vin, à tous les croyants fidèles qui ne sont pas en état de péché mortel, comme ce fut institué par la parole de notre Sauveur. Alors ça paraît assez exotique, cette affaire-là, mais cette histoire de communion-là, c'est le débat à l'époque, c'est communion ou messe. Et évidemment, eux sont partisans d'une communion, parce que pour le coup, la communion, t'as pas besoin d'une institution, d'une hiérarchie, d'une liturgie, d'un ordre du jour, de machin, etc. Et donc t'as des débats farouches, en fait, au sein de l'Église chrétienne autour de cette affaire-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est la pratique, en fait, de référence, hein, pour le chrétien. Donc ça, c'est l'article 2. Article 3. Le pouvoir séculier sur les richesses et les biens terrestres que le clergé possède, contrairement aux enseignements du Christ, au préjudice de son service et au détriment du bras séculier, seront ôtés aux religieux, lesquels seront réduits à la règle évangélique et à la vie apostolique du Christ et de ses disciples. Article 3, donc.
C'est quelle époque, ça?
On est en 1420.
1420. C'est marrant parce que ça aura des échos ensuite, par exemple, chez quelqu'un comme Spinoza, qui est proche de chrétiens hors Église, et en particulier avec l'idée que, justement, il faut rendre le pouvoir temporel au bras séculier et en priver complètement finalement les religieux.
César, Dieu à Dieu, etc. C'est avant effectivement les édits de Constantin, en fait c'est la bascule, c'est ça. Article 4, alors là c'est là on rentre dans le concret. Tous les péchés moraux et en particulier tous les péchés publics ou contraires à la loi de Dieu seront dans tous les rangs existants convenablement et raisonnablement prohibés et détruits par ceux dont c'est la fonction. Au sein du peuple, cette règle concerne la fornication. À eux, c'est pas des libertins, ceux-là. Il y en a d'autres qui, pour le coup, vont
forniquer,
vont reformuler. Ah oui, puis vont enrichir les articles de Prague, si tu veux. Après, il y a des... Donc, la fornication, le meurtre, le mensonge, le vol, l'usure, la méchanceté et les arts superstitieux.
Les arts superstitieux.
Ouais.
Au sein, c'est quoi? C'est l'astrologie.
J'imagine, ouais, la chiromancie. Voilà.
Ah, c'est des gens bien. À part le truc sur la fornication.
Ouais. Au sein du clergé, elle doit s'appliquer à toutes les charges simoniaques pour les offices sacerdotaux, ainsi que toute immoralité, conduite profane et actions belliqueuses, etc. Donc là, on a une espèce de base en fait programmatique. Donc, vous voyez, proto-politique, comme je disais, qui va se mettre en place. Et derrière ça, c'est des dizaines d'années de conflits autour de Tabor, enfin militaire, hein, j'entends, oui. Hein, c'est-à-dire que voilà. Et donc autour de cette tradition hussite. Alors après, il y a des variantes, hein, donc qui vont des surgeons en fait, hein, qui vont se prolonger après cette expérience autour de la ville de Tabor. Il y a notamment le cas des Adamites. Alors eux, ils vont te plaire plus, les Adamites, hein, donc de Adam, bien sûr. Et en fait, alors longtemps, pour avoir une espèce de représentation un peu visuelle, beaucoup de gens pensent qu'en fait c'est eux qui sont représentés dans le Jardin des Délices de Bosch.
D'accord.
Le fameux tableau là, et qui serait voilà une espèce de voilà dommage caché clandestin voilà
aux Adamites
voilà vis-à-vis d'eux. Et donc en fait, alors il raconte un peu comment ça se passe cette affaire-là. Hein. Donc là on est toujours au 15e siècle. Il nous parle de cette variante-là des Hussites. Donc les Taborites, qui est du nom de cette ville, anticipaient la communion des saints en organisant de grandes rencontres sur les collines et les montagnes environnantes, où l'Eucharistie devint une espèce d'agapé, donc une fête communautaire de masse présidée par les chefs militaires et religieux, comme le faisaient les messies. Les prêtres rois du Qumran. Dans le royaume, tous les sacrements et les rites devaient être supprimés et remplacés par la présence du Christ et du Saint-Esprit, et toutes les lois abolies. Les élus ne mouraient jamais et les femmes accoucheraient sans douleur et sans rapport sexuel préalable. En 1420, les Taborites rompirent tout lien avec l'Église catholique par l'élection d'un archevêque et l'ordination laïque de plusieurs prêtres. La majorité des Taborites pratiquaient avant la lettre un puritanisme rigide dans leur conduite personnelle, mais une minorité d'entre eux, influencée par les doctrines du libre-esprit dont je parlais tout à l'heure, croyait que le millénium était déjà arrivé. C'est vrai que c'est jamais clair, en fait, cette affaire-là. T'as pas la date, il n'y a pas d'annonce officielle. Donc, ils croyaient que le millénium était déjà arrivé. Ils formaient le royaume des élus, et pour eux, toutes les lois avaient d'ores et déjà été abolies. 400 de ces dissidents de la dissidence furent exclus de Tabor en 1421 et errèrent dans les bois, nus, en chantant, en dansant, affirmant se trouver dans l'état d'innocence d'Adam et Ève avant la chute. Agissant en vertu de la remarque du Christ sur les putains et les publicains, ils considéraient la chasteté comme un péché et semblent avoir passé leur temps en orgie continuelle. Jean Zika, alors ça c'est le chef des Taborites, canal historique, on va dire, qui s'était déjà retiré de la fraternité de Tabor et avait rejoint la communauté un peu moins extrémiste d'Horeb, passa le reste de l'année à les pourchasser. Enfin, il faut imaginer les scènes quand même, hein. Voilà. Donc plusieurs centaines de ces Adamites lui échappèrent et fortifièrent une île sur une rivière au sud de la Bohême.
Toujours à poil?
Oui. D'où ils lancèrent des razzias sur le voisinage, incendiant des églises et massacrant les prêtres et tous ceux qui leur résistaient. Après un court siège, Ziska s'empara de l'île et extermina tous les prisonniers, sauf un, qui après avoir rédigé une confession complète de leur doctrine, fut brûlé et ses cendres jetées dans la rivière. Donc on est en 1421, voilà, et on a les premières expérimentations des milieux libres, si tu veux, voilà, sous voilà,
et naturiste,
c'est les milieux libres, voilà, sous garantie millénariste, voilà, et chrétienne, etc. Alors après, t'as une expérience qui est plus connue, c'est la révolte des paysans de Münster, dont il parle aussi, évidemment, donc une espèce de réforme dans la réforme, hein, voilà, une espèce de radicalisation des remises en question de Luther, bon, qui va finir dans le sang aussi. Alors ça, c'est plus connu parce que c'est intégré un peu au grand récit marxiste, hein, et de la formation d'une préconscience de classe. Mais après, juste après, t'as une expérience dans la ville de Münster qui est un petit peu moins connue et qui a aussi tout son importance autour d'un personnage qui s'appelle Jean de Lède, notamment. J'ai entendu parler de Jean de Lède. Donc là, on est à l'époque, voilà, de Charles Quint, à peu près, hein. Et là, on a une espèce d'organisation à l'échelle d'une ville, avec un personnage un peu étonnant, ce Jean de Lède, là. Alors, il nous raconte, les récits sont assez marrants parce que du coup, on visualise assez bien. Je parlais de Jardin des Délices tout à l'heure, là, mais voilà. Donc là, il nous dit comment Jean de Lède, voilà, un jour appela toute la population de la ville de Münster à se réunir sur la place de la cathédrale dans le but d'effectuer une sortie pour vaincre les assiégeants. Oui, ils sont toujours en guerre contre Charles Quint, voilà. Ou contre le pape. Donc, dans le but d'effectuer une sortie pour vaincre les assiégeants et accueillir une armée imaginaire d'anabaptistes en provenance des Pays-Bas. Quand les habitants furent tous assemblés, il annonça que ce n'était qu'une manière de mettre leur loyauté à l'épreuve et les invita tous à un grand banquet messianique. Des tables furent dressées sur la place et tous les habitants rirent, dansèrent et chantèrent tandis que le roi, la reine et les conseillers leur servaient à manger. À la fin, il fit passer le pain et le vin béni de la communion, puis il annonça son abdication. Mais un prophète boiteux, le type est un champion de la mise en scène, mais un prophète boiteux du nom de Jean Douzentuer reçut aussitôt un message de la divinité interdisant cette abdication. Puis il oignit et couronna à nouveau Jean de Lède, rebelote, tandis que le peuple en liesse l'acclamait. Avant de devenir un chef religieux, Jean Delède avait été un auteur de théâtre et organisateur de spectacles pieux. Et l'on a pu dire qu'il écrivit et mit en scène la commune de Münster tel un mélodrame religieux. Il offrit certainement au peuple beaucoup de pompe lors des cérémonies de sa cour, rassemblements en plein air, communions en place publique, banquets messianiques, ainsi que de véritables représentations théâtrales données en pleine situation révolutionnaire et basées sur les mystères médiévaux ou les pièces populaires illustrant les miracles. Alors, il a aussi le sens de la mise en scène pour les exécutions capitales, parce qu'évidemment, on a vu que c'était pas exclu, cette affaire-là. Et donc, il précise que, voilà, que nombre de ces exécutions semblent avoir été motivées par son goût pour la décapitation, nous dit Rex Roth. À Jean Delède, il avait une conception folklorique de la royauté, le dit Rex Roth, qui rappelle la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles, qui crie constamment « Coupez-lui la tête, coupez-lui la tête !» Cette attitude était évidemment partagée par le gros de la populace. En fait, l'ensemble de l'idéologie qui prévalut à Münster, telle qu'elle est documentée, présente un côté folklorique. C'est un mélange de mythes, du judaïsme apocalyptique, de contes paysans à la mode des frères Grimm et de légendes du Moyen-Âge, source sous-jacente de la théologie anabaptiste, laquelle cessa d'ailleurs de jouer un rôle exclusif dans la doctrine de la commune. Donc ça, c'est l'ambiance médiévale, je dirais.
Voilà. En fait.
Et qui va donner lieu à la naissance de ce courant qui, du coup, effectivement, qui est un des axes hein, de son travail, à savoir le courant des anabaptistes. Bon, après, on va pas rentrer dans le détail, on va peut-être faire une petite pause là pour pas endormir tous les auditeurs. Et puis, il y a deux, trois mots des anabaptistes et des autres.
Et puis après, cette petite fête et toutes ces décapitations.
Voilà, bien prendre, c'est cela.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend pour sa troisième et dernière partie, où on vous présente donc des sectes religieuses folles, des tentatives communalistes improbables et des adamites. Et oui, il y en avait aussi. Donc à partir du bouquin de Kenneth Rex Roth, Communalisme, qui est une espèce de panorama improbable de. Comment dire, de différentes expériences de vie en communauté à travers les âges en Occident essentiellement. Donc Jean-Mathias nous parlait auparavant des fameux hussites et autres petites sectes chrétiennes qui pulluaient au Moyen Âge et qui ont
et à la Renaissance
souvent, et à la Renaissance et qui ont souvent entraîné avec elles de grandes fêtes sanglantes où tous les hommes se déclaraient frères avant d'aller tuer les frères d'en face. Donc, qu'en est-il de
oui,
la
mais
suite
il a l'air de s'être bien marré quand même. voilà. Avec un sens de la mise en scène.
Avec un sens de la mise en scène, on ne peut pas l'ornier.
Il faut toujours un DJ quand même, un bon DJ, sinon tu...
Et vous venez d'entendre un sujet, vous venez d'entendre Mozart, un morceau qui s'intitule « Un cas mystique typique ». Voilà, 2011, un morceau français.
Et donc bon, alors, comme je vais pas recenser toutes les expériences voilà de ces questions-là, j'ai lu quelques passages pour donner un petit peu l'ambiance quoi, hein, et puis le type de récit et la manière dont c'est présenté là dans le bouquin de Rex Roth. Donc je disais, voilà, un des axes en fait ensuite à partir de ces expériences là c'est les différents courants anabaptistes, hein, qui vont découler en fait de ces expériences là de la Renaissance. Alors les anabaptistes, c'est quoi? C'est des protestants, on va dire hétérodoxes, on va dire, hein, quelque chose
des protestants orthodoxes.
Ben, je vois pas d'autres mots, hein, parce que en fait c'est non,
donc c'est l'hétérodoxie.
Ouais, là on est là-dessus. Bon,
c'est
ça. Oui, on est là-dedans. Il y a des camarons quand même. Il y a des cas, les divagateurs notamment. Là, je résiste pas. Voilà, sur les divagateurs. Là, on est plutôt en Angleterre. Hein, donc au moment des guerres civiles anglaises. Donc on est au XVIIe siècle, hein, au milieu du XVIIe siècle. Et il nous explique que les divagateurs n'étaient qu'incidemment millénaristes. Fondamentalement, leur mouvement était une résurgence de la fraternité du libre esprit, encore elle, hein, qui remonte donc au Moyen Âge. Ils croyaient qu'une fois divinisée et absorbée dans la divinité, l'âme était incapable de commettre le mal. Comme les Adamites, qui avaient été expulsés de Tabor, ils vivaient dans une perpétuelle exaltation extatique et amorale. Quand ils pratiquaient la communauté des biens, le nudisme, le parler en langue, donc la glossolalie, c'est-à-dire hein, voilà, l'espèce de long monologue de syllabes, mais pas de mots, hein, si je traduis bien. Donc quand ils pratiquaient la communauté des biens, le nudisme, le parler en langue et les orgies sexuelles, tout cela faisait partie d'une vie frénétique, précipitée et traquée, vécue dans un état d'excitation constante. Certains divagateurs étaient en fait tout simplement des spiritualistes extrêmes, héritiers de Maître Eckhart et des mystiques de Rhénanie. Et avec la restauration de Charles II en Angleterre, ils furent absorbés par les Quakers, mouvement intéressant aussi, les Trembleurs, hein, donc c'est une branche du mouvement Quaker. En réalité, ils se trouvait totalement en dehors du développement du puritanisme anglais. Et alors, c'est un des intérêts du bouquin, si tu veux, c'est effectivement de te montrer des espèces de veines, je dirais, tu vois, un peu sous-jacentes, de mouvements, voilà, qui sont hyper réputés pour leur austérité, leur puritanisme, leur intransigeance chrétienne, etc. Et donc, les divagateurs, puis les trembleurs, c'est pas mal aussi. Je vous ai repéré quelques passages. C'est des Anglais qui ensuite eux vont émigrer, les Shakers, qui vont ensuite émigrer aux États-Unis, hein, pour former des communautés, notamment au moment du 19e.
Quand même, maintenant ils sont reconvertis dans les cocktails.
Non, ils sont pas dans les cocktails. Non, mais t'as des illustrations, par contre, hein, tu vois, t'as des illustrations d'époque là où tu vois effectivement.
D'accord. Bon, tu vois déjà Tom Cruise.
Donc je montre au micro pour les éditeurs, évidemment, je m'en excuse, mais l'illustration est assez marrante. Alors les Shakers, donc les trembleurs, eux, ils s'installent donc plutôt aux États-Unis. Et alors, donc dans leur communauté, alors ni images ni instruments de musique ne furent autorisés avant que s'amorce le déclin de la société. Pas de poésie venue de l'extérieur, pas de romans, ni même de livres d'histoire, donc là ça a l'air plutôt pas très marrant, hein. Nul récit des mots de ce monde qui aurait pu souiller la communauté. Les modestes bibliothèques des villages Shakers ne contenaient, outre quelques livres strictement techniques, oui, bon, paysan quand même, hein, paysan, construire des maisons, les ouvriers, le travail manuel, enfin le travail... qui n'est pas maudit, quoi. Hein. Voilà. Donc, quelques ouvrages religieux étroitement reliés au shakerisme, ainsi que des ouvrages pieux dus à la plume des membres de la secte qui formaient une littérature toujours plus abondante. Alors, il y a un petit déroulé de la journée, un petit descriptif assez intéressant quand même. Les journées se déroulaient dans un strict ascétisme. Après le souper, l'office du soir constituait certainement parmi toutes les sectes communautaires américaines la plus grande transe libidinale collective dûment ritualisée. On ne trouve quelque chose s'en rapprochant que dans les témoignages judiciaires sur les hérétiques médiévaux ou dans la religion païenne secrète et probablement imaginaire que les occultistes modernes lient à la sorcellerie. Après des hymnes et de brefs sermons prononcés par les aînés ou les aînés, les hommes et les femmes s'alignaient de part et d'autre d'une pièce et entamaient, en traînant les pieds, une danse, accompagnée de mouvements des bras ressemblant au maniement d'un rouleau à pâtisserie et évoquant quelque peu la maladie de Parkinson, tout en psalmodiant des hymnes, souvent dans des langues étranges, certaines traditionnelles, des patois et des dialectes d'Europe, d'autres spontanées et absolument inouïes. Dans certaines familles, à certains moments, les rangs des hommes et ceux des femmes se croisaient et tout le monde s'étreignait et s'embrassait. Les descriptions de ces effusions par les participants indiquent toujours qu'ils s'accompagnaient d'une vague d'amour dont l'intensité est à peine imaginable. Curieusement, personne, même dans les récits d'anciens Shakers, ne trouve à ses étreintes et vraisemblablement à ses orgasmes quoi que ce soit de sexuel. Les couples qui s'étreignaient se concentraient sur l'amour de la communauté, sur l'être ensemble. À mesure que la soirée se prolongeait, les danses en rang cédaient la place à des lignes, à des rondes, puis à des tournoiements, seuls ou à deux, chorégraphie acrobatique et frénétique qui n'était pas sans ressemblance avec ce qu'on appellera dans les années 1930 le jitterbug, puis une vingtaine d'années plus tard le rock and roll. Voilà.
Après, donc on et, a après, et après le pogo.
Et après le pogo. Donc, alors, je vous passe les expériences de visitation diverses et variées. Voilà. Alors, peut-être deux mots quand même pour terminer sur les expériences athées, puisqu'il y en a.
Oui, parce que là, quand même.
Il en fut aussi. Moi, je trouve ça marrant. Mais. Donc la première, c'est l'expérience. Alors il y a tout un chapitre qui est consacré. C'est les expériences. Alors ça c'est connu aussi, mais c'est pour ça que je vais aussi plus vite dessus parce que il fait tout un chapitre sur les expériences d'Owen, évidemment, de Robert Owen, qui lui, alors à l'origine est un tisserand, si je me trompe pas,
propriétaire d'une usine.
Usine, exactement. Oui. Voilà. Et qui va est à l'origine hein, des premières coopératives un peu pérennes, on va dire, hein, parce que il se fait même un vrai carton. Alors avant que ça tourne assez court quand même, c'est-à-dire que c'est quoi, c'est 10-15 ans en fait, hein, je crois, en fait, c'est New Harmony là, le nom de la communauté qui fonde. Mais c'est lui pour le coup a le sens de l'organisation et lui il a un programme effectivement qui est en fait le programme de la coopération. C'est un programme, il y a une coopération de production, de conso aussi, hein, de conso aussi, hein, ouais, ouais. Voilà, je parle sous le contrôle de Jordan, spécialiste de la coopération devant l'Éternel, disons-le, puisqu'on en parle. Et effectivement, c'est cette combinaison là qui fait l'origine effectivement de New Harmony et du succès. Alors, il y a aussi tout un chapitre sur Fourier. Alors, c'est pareil, Fourier, c'est un peu plus connu, donc c'est pour ça que je passe un peu plus vite.
Les phalanstères.
Voilà, avec ce modèle. Alors là, pour le coup, on rentre dans le programmatique. Là, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un programme détaillé jusque à la taille des. À la taille des chambres et puis horaires très stricts, etc. Donc, division de la société en phalanstères, chacun disposant d'un somptueux bâtiment commun, abritant 1620 individus, représentant chacun l'un des 1620 caractères recensés par Fourier, sur un terrain de 2300 hectares, divisé en champs et surtout en vergers et jardins. Fourier aimait beaucoup les fruits et les fleurs, Max Roth. La population était divisée en groupes, hein, d'au moins 7 personnes, 2 étant logées dans chaque aile, car représentant les courants ascendants et descendants du goût et des aptitudes. Alors, pour vous expliquer un peu ce délire là, enfin ce délire, savoureux, délicieux. C'est que en fait il y a en fait ce plan de Fourier, il s'inscrit dans toute une espèce de cosmologie ultra sophistiquée. Alors, sur l'aspect économique, hein, la phalange est financée par des ventes d'actions, mais chaque phalanstère n'est pas nécessairement actionnaire, ni chaque actionnaire phalanstérien. Le travail est rémunéré à l'ouvrier, et l'ouvrier devrait s'acquitter d'un loyer et autres frais. À la fin de l'année, les bénéfices de la phalange sont partagés. 5 douzièmes pour le travail, 4 douzièmes pour le capital, 3 douzièmes pour la compétence. Voilà, donc c'est assez précis.
C'est dans le capital, histoire d'équilibrer les choses.
7/8 des membres seraient paysans et mécaniciens, et le reste exercerait les professions libérales, artistiques, scientifiques et financières. Il n'y aurait ni mécontentement ni discrimination, puisque tous les rôles seraient interchangeables. Il y aurait une chancellerie de la cour d'amour, des corporations d'amour et un système extraordinaire de polygamie organisée. Non seulement la sexualité, mais l'alimentation et tous les autres plaisirs sensuels seraient organisés pour procurer le maximum de plaisir à tous. Là, on passe effectivement à l'hédonisme scientifique. Et il rappelle justement pour l'aspect cosmologique du truc, voilà, que dans sa théorie, Fourier se limita pas à réorganiser la société, puisque son utopie trouvait place dans une cosmologie fantastique. Les étoiles et les planètes sont des animaux, comme nous-mêmes, pensait-il. Ils naissent, ils s'accouplent, vieillissent, meurent comme nous. La durée de vie moyenne d'une planète est de 80 000 ans. La moitié est passée en vibration ascendante, l'autre moitié en vibration descendante. L'existence de la Terre se divise en 32 périodes. Nous en sommes à la 5e. Quand nous atteindrons la 8e, la grande harmonie sera consumée et des queues pousseront aux humains avec des yeux au bout. Les cadavres seront transformés en parfums interstellaires. 6 nouvelles lunes apparaîtront, la mer se transformera en citronnade et tous les animaux et insectes féroces et malfaisants se transformeront en antilions, antirats, antimorpions, doux et gentils. Puis les phalanstères au nom exact de 2,985,984 se répandront sur la Terre qui deviendra une grande communauté d'amour dirigée par un omniarque, 3 augustes, 12 césarines, 48 impératrices, 144 califes et 576 sultans. Voilà. Donc là, on est plus effectivement dans le délire, hein. On est dans l'organisation, hein. Voilà.
Et c'est précis. C'est très très précis.
Et effectivement, c'est sur ce modèle-là et en vertu de ce programme parfaitement rationnel que un certain nombre de communautés tentent leur chance aux États-Unis. Un dernier petit mot parce que une petite tendresse pour lui quand même pour Cabet. Alors Cabet, c'est le voyage en Icarie.
C'est Icarie, oui, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est l'Icarie. Alors il naît en 1788. Cabet, il est avocat en 1820, il laisse tomber et en fait, il a sa révélation en 1830, au moment de la révolution contre Louis-Philippe. Et là, en fait, à la suite de cette révolution, il est exilé, il se rend à Bruxelles. Il est expulsé de Bruxelles, il émigre en Angleterre et il devient un disciple d'Owen dont on parlait à l'instant. Et puis en 39, en fait, il y a une amnistie, donc il revient et là, il va lancer une espèce d'appel qui s'appelle Voyage en Icarie, qui est en fait une espèce d'appel à souscription pour fonder hein, une communauté un peu dans la continuité de ce que fait Fourier. Et contre toute attente, il fait un carton. Il fait un carton parce que effectivement on est dans une période où voilà France surpeuplée. Alors pardon, je me suis trompé sur la date. C'est en 47 l'appel. 47, hein, 1847. Et donc l'idée, donc le projet, c'est la création de communautés modernes hein, qui vont révolutionner bientôt la société comme ça, la société moderne par capillarité. Et donc, il vise à la mise en place de sociétés, de colonies communistes de 10 000 à 20 000 personnes. Et donc, il va ramasser un paquet de pognon. Il va acheter un terrain. Et il achète un terrain, mais depuis Paris, en fait, c'est-à-dire. Et donc, on lui promet, effectivement, voilà, des terres fertiles, etc. Lui, il peut pas partir au début. Donc, il y a les premiers colons qui partent en bateau, qui traversent l'Atlantique, qui se retrouvent sur place. Et en fait, de terrain, en fait, il a acheté ce qu'on lui avait pas précisé, c'est que le terrain qu'il a acheté est en damier. Il est en damier et il est dans des marécages. C'est-à-dire qu'en fait, il est complètement discontinu. Il y a comme ça des cases, effectivement, qui sont collées par les arêtes, les unes aux autres. Et donc là, ça va être une tannée pendant des années. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils y vont quand même. Lui-même, il arrive. Après, il promet des renforts. Il y en a d'autres qui doivent arriver. Il relance une souscription. Ils savent rien faire. Ils savent rien faire. Ils crèvent de la malaria. Ils sont les pieds dans la boue. Ils ont pas de bois pour faire les baraques. Et voilà. Mais ils tiennent. Ils tiennent le coup. Et en fait, ça va durer. Et puis alors après, évidemment, finir par se foutre sur la gueule, parce que les conditions sont quand même assez oppressantes, on va dire.
C'est différent de faire une expérience en Europe, en France même, non ?
Alors en France, il n'en parle pas, mais par contre, il y en a qui en font, qui SM ouais.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis. Et effectivement. Et donc l'enjeu, ça va être voilà, de savoir qu'est-ce qui peut être privatisé, qu'est-ce qui est vraiment public. Alors lui, c'est pareil. C'est une communauté, c'est une coopérative de conso où tout, en fait, tous les biens produits et toutes les richesses sont mises en commun. Au bout de 15 jours, en fait, ils se sont fait complètement vider la caisse par des mecs qui n'étaient pas de la communauté, mais qui ont entendu parler d'eux et qui, du coup, voilà, sont venus se servir parce que c'était open bar. Donc là, c'est une forme de coopération un peu extrême et qui, du coup, ne fonctionne pas, en l'occurrence. Donc vous avez tous ces récits-là et ils terminent sur les utérites. Alors là, juste peut-être, si on a... Ouais, bon, on a... je le fais vite parce que eux, ils ont une trajectoire alors qui est assez fascinante aussi. Les utérites, termine sur cet exemple-là, donc aux États-Unis toujours, et c'est une communauté qui est toujours active, hein, constitue de loin la plus ancienne société communiste du monde, ou plutôt de l'histoire connue, nous dit-il. Si on excepte les quelques tribus qui vivent encore plus ou moins dans des conditions de communisme primitif, bon voilà. Il y a près de 4 siècles et demi, Jacob Utter unifia les communautés anabaptistes de Suisse, de Bohême, de Moravie et du Tyrol autrichien, et les persuada d'adopter une vie entièrement communautaire. À l'âge d'or des colonies moraves, il y avait plus de 20 000 membres dans plus de 90 villages, et cependant le nombre de familles est étonnamment restreint. Tous les utérites existants descendent des rares familles qui survécurent à des siècles de migration, de persécution et de désertion. On a souvent noté que l'un des principaux facteurs de l'échec des communautés, en particulier des communautés laïques, a été le défaut de discernement dans l'acceptation de ses membres. Or, les communautés utérites contemporaines sont l'aboutissement de la sélection la plus rigoureuse qu'on puisse imaginer. Elles ont survécu tant aux martyrs qu'à la prospérité, ainsi qu'aux migrations dans les environnements politiques les plus incongrus, même si leur environnement physique est resté remarquablement uniforme, des terres noires ukrainiennes à la grande prairie nord-américaine en passant par le bassin du Danube. Au début, ils recrutèrent délibérément des adeptes possédant des savoir-faire nécessaires, artisans et paysans expérimentés, sage décision. En Moravie et pendant un certain temps en Russie, ils furent installés sur de grands domaines seigneuriaux dans lesquels subsistait l'économie autarcique de la communauté médiévale qui surperfectionnait à leur profit. Aujourd'hui encore, ils bénéficient de l'expérience acquise au fil des siècles au contact du mode de production féodal, même si les chrétiens progressistes actuels pourraient la qualifier de fondamentaliste. La foi utérite est en réalité, et ça j'aime bien, c'est une petite formule au passage, il est assez drôle. La foi utérite est en réalité plus souple, moins stricte, et chose plus importante encore, j'aime bien la remarque, ses adeptes sont davantage enclins à la transcendance et à la ferveur spirituelle que la plupart de ceux des sectes anabaptistes d'antan ou des églises millénaristes et pentecôtistes d'aujourd'hui, au sein desquelles le millénarisme se sont éteints. Alors, ils sont plutôt au Canada, maintenant, ceux-là. Ils sont profondément pacifistes, ils ont survécu à tout, à toutes les calomnies, les razzias, les ostracismes, etc. Et donc, il y a une petite tendresse pour les utérites. Une photo d'utérite, alors c'est un peu sur le modèle adamite, la moderne, là. Donc, voilà, t'as de chenus barbus à poil qui se tiennent par la main et qui avancent dans une prairie. La photo, pour le coup, est plus récente. Donc, il semblerait que, voilà. En tout cas, ils fondent des espoirs assez sérieux sur ces communautés-là. Quoi qu'ils soient effectivement moins optimistes sur les communautés hippies qui voient apparaître au même moment en 74. Donc, vous aurez compris, moi j'ai trouvé le livre extrêmement sympathique et voilà, et agréable à lire. Pour prolonger, il y a un livre publié chez Agone,